On continue notre série dans le livre d'Exode. Et j'espère que vous appréciez jusqu'à présent la série, même si ce livre-là est loin dans le temps, il est loin de nous. On va voir combien c'est pertinent d'étudier le livre d'Exode. Mais juste avant, dans deux semaines, on a notre conférence Sola. On est privilégié, ça a lieu ici. J'ai très hâte. Et puisqu'il y avait eu énormément de demandes, il y a eu un ajustement qui s'est fait tout simplement pour ouvrir d'autres opportunités. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez vous inscrire à la journée. Alors, oui, et le vendredi soir même, vous pouvez venir simplement pour le vendredi soir avec Tim Savage. J'ai déjà mentionné que c'était un de mes prédicateurs préférés, vraiment un de mes pasteurs. J'aime apprendre de lui à aimer les gens puis à aimer Jésus. Et puis, on va avoir l'ensemble musical, l'ensemble de musique, de musiciens Église 21 qui vont être avec nous le vendredi soir pour la louange. Alors, c'est possible de venir juste le vendredi soir, c'est possible de venir journée par journée si vous voulez venir à la préconférence sur la dépression, qui devrait être absolument excellente, ou si vous êtes disponible le samedi, vous pouvez venir. Alors, profitez-en, allez à la table de Sola après le service pour vous inscrire. On continue notre série dans Exode. Et j'essaie vraiment de vous convaincre de prendre le temps de lire le texte pour vous préparer à venir à cet exposé biblique-là, d'accord? Alors, si à travers la série dans Exode, vous avez simplement développé le réflexe lorsqu'on est dans des séries où on fait un livre biblique, de suivre notre plan de lecture, de vous préparer, on va avoir gagné énormément, parce que la richesse n'est pas dans l'exposé qu'on fait. La richesse est dans la parole de Dieu. Et mon rôle à moi, c'est juste de dire, « Seigneur, enseigne-moi, je veux partager quelque chose avec l'Église. » Ce qu'on a vu jusqu'à présent à travers cette série-là, on est rendu maintenant dans notre quatrième exposé ce matin. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, premier exposé, on a vu le cœur de Dieu. Dieu a entendu son peuple qui est en esclavage, qui sont des victimes innocentes. On pense toujours à Israël, on pense toujours à nous comme chrétiens, on est des pécheurs, on sait qu'on a des choses que Dieu travaille dans nos vies, tout ça. Mais lorsqu'on commence le livre d'Exode, Israël, ce sont des victimes innocentes et Dieu entend leurs souffrances. Et ce qu'on a vu ensemble, c'est que Dieu veut nous donner ce cœur-là. À travers le monde, il y a, c'est vrai, le péché et toutes ses conséquences. Mais ça entraîne aussi bien souvent des gens qui souffrent. Et on veut avoir ce cœur-là sensible où Dieu a un plan de rédemption. Il veut sauver, il veut intervenir. On a vu dans le deuxième exposé que Dieu prépare son serviteur, son messager Moïse. Il appelle, puis on a vu que Moïse parle énormément de Moïse. Puis la réponse de Dieu, c'est assez simple. Veux-tu arrêter de me parler de toi, puis réaliser que moi-même, je serai avec toi? Et c'est de ça qu'on a besoin de se rappeler nous-mêmes, alors que Dieu nous envoie avec ce message de grâce-là, avec ce message de rédemption, de rachat, de salut. On a vu la semaine dernière, à travers les neuf premières plaies, on a vu la question de Pharaon. Pharaon vient avec arrogance, puis il dit, « Qui est l'Éternel pour que j'adore, que je serve ton Dieu, que je vous laisse partir? » Puis Pharaon ne le réalisait pas, mais il posait la question la plus importante qu'un être humain peut se poser. « Qui est ton Dieu? » Et la réponse la plus importante, c'est « L'Éternel, et je veux le connaître. » Le Dieu des cieux. Et à travers ces neuf premières plaies, et même la dixième qu'on va voir ensemble ce matin, Dieu est en train de répondre à la question de Pharaon. Il est en train de dire, tous ces dieux que vous adorez, que vous êtes forgés, vos idoles, tout ce qui est au cœur de votre vie, ce dans quoi vous mettez toute votre espérance au lieu de la mettre en moi, votre Créateur, ce sont de faux dieux. Ce sont des dieux que vous avez forgés de vos mains. Et je vais vous démontrer qu'ils n'ont aucune puissance pour vous délivrer. Vous devez reconnaître votre Créateur, le Créateur de tous les hommes, Égyptiens, Israéliens, Canadiens, Québécois, tout le monde. Et ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que c'est seulement par la grâce de Dieu, c'est seulement par la grâce de Dieu que qui que ce soit sur la terre peut entrer dans la présence de Dieu, peut espérer se présenter devant la face de Dieu, c'est seulement par sa grâce. Que je sois égyptien, israélien, canadien, québécois, que je vienne de n'importe quel pays dans le monde, c'est uniquement en vertu de la grâce de Dieu que je peux espérer me présenter devant sa face et être accueilli. On va prier ensemble. Père éternel, ce matin, on veut t'adorer. Ce matin, Père, je veux reconnaître que tu es Dieu, qu'à l'origine de toute chose, de cet univers où l'on vit, Il y a un Créateur qui a conçu toute chose, ce monde merveilleux, extraordinaire, où nous sommes, Seigneur, comme une créature merveilleuse, l'être humain unique en son genre, Seigneur. Et tout ceci me parle de toi, Père, du Créateur, me parle de ta grandeur, de ta beauté, de ta majesté. Père, lorsque je lis les Saintes Écritures, lorsque je médite sur ta personne, je réalise, Père, que tu es trop grand pour que je saisisse véritablement qui tu es. Ta perfection, ta sainteté, la perfection de ton amour, la perfection de ta pureté, la perfection de ta justice, la perfection de ta grâce sont trop grandes pour moi, Seigneur, pour que je puisse comprendre ces choses-là. Père, je réalise en méditant sur ces choses qu'entrer dans ta présence doit être à la fois absolument exaltant, parce qu'on se retrouve devant celui qui a conçu toute chose, celui qui par définition est infini, omniprésent, omniscient. Mais ça doit être tout à la fois, Seigneur, absolument terrifiant, parce que nous sommes si petits, imparfaits, Seigneur. Je reconnais ce matin, Père, que je suis pécheur et que dans ta sainte présence, un être comme moi, Seigneur, devrait trembler. Et ceux parmi les hommes qui croient que ton amour annule ta sainteté ne te connaissent pas. Que ceux parmi les hommes qui croient que cette beauté de ta création nous parle d'un Dieu beau et qui ne châtirait pas si mal, qui accepterait les viols, les abus, les vols, les génocides, sans dire un mot, au nom d'une parodie de l'amour, ne te connaissent pas, Seigneur. Que ceux qui ne savent pas le prix que tu as payé pour nous offrir ta grâce ne te connaissent pas, Seigneur. Et ce matin, je désire te connaître. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre d'Exode au chapitre 12, versets 1 à 13, et ensuite au chapitre 12, versets 31 à 38, dans l'édition Second. Donc, Exode, chapitre 12, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode, chapitre 12, versets 31 à 38. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux, et ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs.
Merci, Jérémie. Il y a deux leçons importantes à retenir dans ce passage-là. Je vais les résumer tout de suite, d'accord? Et ensuite, on va développer ça ensemble. Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, l'absolue nécessité de la grâce de Dieu envers qui que ce soit pour entrer dans la présence de Dieu. Et deuxièmement, l'importance de se souvenir, de rappeler à nos cœurs, à nous, à nos enfants, à tous ceux que Dieu place sur notre route et qui veulent bien l'entendre, la grâce que Dieu a manifestée. On n'a pas lu l'entièreté du passage, mais dans ce passage-là, c'est particulier, l'emphase n'est pas sur la dixième plaie. Puis pourtant, ce qui se passe, c'est terrible. Dieu va venir visiter l'Égypte. Et tous les aînés, tous les premiers-nés vont mourir. Chez les Égyptiens, vont être frappés. Chez les animaux, chez les êtres humains. Je reviens sur ça. Mais l'accent dans le passage n'est pas là. Il est davantage sur le devoir de mémoire. Parce que ce moment-là dans l'histoire d'Israël devient un point tournant où ils peuvent découvrir et connaître la grâce de Dieu. C'est Pierre qui nous dit dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 1, versets 12 à 15. « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, que je suis vivant dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. » Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Le début du récit dans Exode 12 commence avec ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Avec ce qui va se passer avec cette dixième plaie, Dieu leur dit, « Votre histoire commence ici. » C'est un point tournant dont vous allez devoir vous rappeler chaque année. C'est un point tournant que vous allez devoir communiquer à vos enfants parce que vous allez connaître qui est Dieu. À la fois qui est Dieu terrible et qui est Dieu merveilleux et gracieux. Et vous allez devoir vous rappeler de ça constamment. Le rappeler à vos cœurs, le rappeler à vos enfants, le dire à qui veut bien l'entendre. Est-ce que vous savez en quelle année on est cette année? On est en 2016. Connaissez-vous l'expression médiévale qui disait « en l'an de grâce » Vous avez déjà entendu ça? Il y a eu toutes sortes de discussions sur cette expression-là. Il y a des chercheurs, des historiens qui disaient que c'est parce que les chrétiens attendaient le retour de Christ en 1000, puis on comptait les années à partir de là parce qu'il n'était pas encore arrivé. Finalement, les recherches tendent à prouver que c'est pas ça. Les chrétiens, à l'époque médiévale, parlaient de l'an de grâce à partir de la venue de Jésus-Christ. Et alors qu'on vit dans une culture qui est en train de se déchristianiser, on parle d'ère vraiment post-chrétien, en même temps, on est en 2016, en l'an de grâce. 2016. Et on a un devoir de mémoire parce qu'on a connu, il y a quelques 2000 ans, l'humanité a connu la grâce de Dieu et le prix de la grâce de Dieu. dans la personne de Jésus-Christ, dans sa mort sur la croix, dans sa résurrection d'entre les morts, sa mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, pour que Dieu puisse nous faire grâce et qu'on puisse entrer dans sa présence, sa résurrection pour notre résurrection, sa présence pour l'éternité. On est en l'an de grâce 2016 et on a un devoir de mémoire de se rappeler ces choses-là. Ce matin, on va voir ensemble la seule... Seule la grâce, je m'excuse, de Dieu peut nous préparer à le rencontrer en face. Et c'est à nous de rappeler sa grâce à nos cœurs, à nos enfants et à tous ceux qui voudront bien l'entendre. La réalité de la présence de Dieu, terrible et merveilleuse. Lorsqu'on arrive à la dixième plaie, si c'est votre premier contact avec ce récit-là, vous dites, mais quel Dieu terrible qui va frapper, qui va mettre à mort littéralement les premiers-nés, les aînés. Je suis l'aîné de la famille, 46 ans. Quand on pense aux premiers-nés, on pense à des rejetons, mais c'est l'aîné, hein? 46 ans. Ça se passe aujourd'hui, je meurs. Ce qu'on oublie, c'est que c'est la dixième plaie. Et que Dieu a usé de patience envers Pharaon. Et que Dieu a appelé, il les a mis en garde. Les neuf premières plaies sont des avertissements. On lit encore une fois dans 2 Pierre 3:9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » Rappelez, Moïse s'en va, première fois devant Pharaon, ça ne se passe pas comme il s'attendait, il quitte, puis là il dit, « Mais qu'est-ce qui arrive, Dieu t'avait dit que... » Attends, Dieu est patient. Dieu est patient. Dieu donne des avertissements à Pharaon. C'est toi le chef du peuple. Repens-toi. Laisse aller mon peuple. Attends pas que je vienne te visiter. Dans 2 Pierre 3:9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. On lit dans Ésaïe 30, 18, « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce en s'adressant à Israël. » L'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. La vérité, c'est que Dieu a usé de patience envers Pharaon. Puis les neuf premières plaies, terribles, certaines d'entre elles vraiment terribles, très souffrantes, étaient des avertissements. Et on a quelque chose à apprendre de ce passage-là pour nous-mêmes dans notre conception de Dieu, dans notre compréhension de qui est Dieu. Dieu dit qu'avec cette dixième plaie, il va juger les dieux des Égyptiens. À travers cette souffrance-là que Dieu impose au peuple d'Égypte, Dieu est en train de faire un argument avec eux. Il est en train de leur dire, je vais me révéler à vous aussi, Égyptiens. Je vais me révéler à Israël, mais je vais me révéler aussi à vous, Égyptiens. Vous êtes conçus des dieux, vous êtes construits des dieux. Je vais juger Dieu. Et si vous n'écoutez pas chacun de mes jugements, le dernier sera terrible. Vous allez obtempérer lorsque vous allez rencontrer Dieu. La terrible présence de Dieu. Ça ne fit pas dans la conception contemporaine de Dieu. La vision occidentale, je dis bien de Dieu, c'est que Dieu nous doit tout. L'être humain, dans sa vision humaniste, dans sa confiance, dans son intelligence, a dit tout ce qui est vrai, c'est ce qui est raisonnable à ma pensée. Ce qui est complètement insensé parce qu'on comprend à peine l'univers, on n'arrive même pas à comprendre notre cerveau. On est au début, on est à la genèse de la compréhension de l'univers. On comprend à peu près rien. On devrait simplement dire « Waouh, je suis pas au centre de cette histoire-là. » Mais l'être humain estime être au centre. Tout ce qui est raisonnable à ma pensée doit être vrai. Ce qui ne l'est pas est pas vrai. Et si Dieu existe, Dieu m'aime puis il m'en doit toute une faveur. Parce que moi, j'accepte de vivre dans un monde qui est difficile. Mais si Dieu est Dieu, t'es gros comment, toi, bonhomme? Si c'est Dieu qui a designé tout l'univers, si c'est Dieu qui t'a conçu, t'es grand comment, toi? La course de ta vie s'arrête dans combien d'heures, combien de minutes? Tu peux les calculer, on peut te donner des stats, tu ne battras pas les stats. On peut te dire combien de secondes qu'il te reste à vivre maximum. Et les Saintes Écritures nous disent que Dieu est au-dessus de tout cela. C'est lui qui a conçu l'univers, qui l'a ordonné, qui l'a organisé. C'est lui qui se fait connaître à nous. On ne peut pas le connaître s'il ne vient pas se révéler à nous. Ce qu'on peut connaître de lui à travers la création, c'est super limité. Mais Dieu se fait connaître à nous. Et il se dégage de tout ça que Dieu est infiniment grand, je suis infiniment petit. Dieu est terrible, simplement par sa grandeur et sa perfection. Et il y a juste un insensé qui va se dire, quand je vais arriver de l'autre bord, on m'a réglé ça avec le bonhomme. Tu n'arrives pas à régler rien dans ta vie ici sur la terre, de l'autre bord, tu ne régleras rien pantoute, bonhomme. C'est ça la vérité. On essaie de faire le mieux qu'on peut dans les quelques années qu'on a ici. On essaie de faire du bien autour de nous. Puis souvent, notre propre vie, on a l'impression qu'elle nous échappe. Avec cette dixième plaie-là, ce qui se passe, c'est que Dieu dit qu'il va venir lui-même. Regardez le verset 4, Exode 11, 4. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. » Dans Exode 12, 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. » Ce qui change avec cette dixième plaie-là, c'est que dans tous les autres cas, il y avait un médiateur entre Dieu et les Égyptiens. C'était Moïse. Moïse se présentait devant Pharaon. Pharaon disait « Non, je veux rien savoir. » Moïse s'en allait parler à Dieu. Pour celle-là, Dieu dit à Moïse « Reste chez toi. » Tu vas préparer ta maison, tu restes chez toi. Je n'ai pas besoin de médiateur. Je m'en viens visiter l'Égypte. Ça ne ressemble pas peut-être à votre conception de Dieu qui vient vous visiter. Parce qu'on a découvert à travers le christianisme un Dieu qui est amour. Dieu est amour, nous dit les Saintes Écritures. Mais on a retenu simplement un fragment, une toute petite portion, puis on a déformé notre vision de Dieu. Ce qu'il y a de terrible pour les Égyptiens, c'est simplement ça. C'est que Dieu dit, « Je vais venir vous visiter moi-même. » Est-ce que vous êtes dans vos péchés, dans vos fautes, dans vos vices, dans votre arrogance? Va devoir se tenir debout devant moi parce que je vais venir vous visiter moi-même. Rappelez-vous lorsque Moïse voit le buisson ardent et que Dieu est là. Qu'est-ce que Dieu dit lorsque Moïse commence à s'approcher? Retire tes souliers, t'entres dans un lieu saint. Tu ne réalises pas qui est ici, c'est Dieu. Une des plus grandes grâces que Dieu peut vous accorder, c'est de réaliser que Dieu est infini et que nous sommes des êtres finis, limités. Que toute l'arrogance que l'être humain peut déployer, c'est Don Quichotte qui s'en va combattre des moulins à vent. Mais lorsque je vais me présenter devant Dieu, si ce n'est pour la grâce de Dieu, cette expérience-là va être terrible. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Je ne gagne absolument rien à ça. Vous comprenez que si je voulais faire un discours qui est plus cool, je vous flatterais dans le sens du poil. Dieu vous aime, il veut remplir votre compte de banque. Faites juste prier, aimez-le, faites du bien à votre prochain, puis tout va bien aller. Quand tu vas arriver au ciel, fais juste t'endormir. Tu peux te foutre de Dieu toute ta vie, mon homme. Dieu est amour. C'est un grand Père Noël qui est dans le ciel puis qui veut juste t'attendre avec toute la liste de cadeaux que tu as faite. Ils sont tous là au ciel. Si tu ne les as pas sur la terre, tu vas les avoir au ciel. C'est pas cet être-là qui a créé l'univers. C'est un être qui est parfait. Et ce que je viens de décrire, c'est une farce monumentale. Parce que chacun d'entre nous, on est plus juste que cet être-là que je viens de décrire. Il y a des choses qui se passent sur la terre qui nous fâchent, qui nous choquent, qui déploient en nous un jugement moral. Malgré toute ma faiblesse, ma corruption, je suis encore capable parfois de dire « ça c'est mal, ça c'est bien, il ne devrait pas se passer ça, c'est une victime innocente ». Avec toute mon imperfection, je suis capable de faire ça. Et Dieu qui est parfait, t'attendrait au ciel avec ta liste de cadeaux, puis il dirait, viens-t'en mon grand, viens mon petit Hitler, viens t'asseoir sur mes genoux, On va juste aller le rejoindre au ciel. Hein? Hitler est avec grand-papa Dieu, puis il est là sur ses genoux en train de recevoir ses cadeaux. Non, j'aurais pas voulu être dans sa peau quand il s'est présenté devant Dieu. Et si ce n'était pour la grâce, je voudrais pas être dans la mienne non plus. Si ce n'était pour la grâce de Jésus-Christ. Et on a une leçon déjà à retenir dans ce passage-là. On doit considérer nos jours, on doit considérer le fait que Dieu, à tout moment, peut nous rappeler à comparaître devant lui. On doit se poser la question. Si Dieu est parfait, comment est-ce qu'il peut m'accueillir? Et c'est là qu'on découvre le Dieu merveilleux et gracieux. Le substitut que Dieu pourvoit, l'agneau parfait. Je reviens un petit peu plus tôt dans l'histoire, dans le livre d'Exode, dans Exode 4. La première fois que Moïse est allé vers Pharaon, voici ce qu'il avait à dire à Pharaon. Tu diras à Pharaon, Exode 4, 22-23, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Je vous l'ai dit, les 10 plaies, c'est un argument que Dieu a avec Pharaon, avec le peuple d'Égypte, qui tient injustement en captivité Israël, le peuple que Dieu a choisi. Et Dieu lui dit, « Tout Israël, c'est mon fils. Laisse aller mon fils. Si tu ne laisses pas aller mon fils, je vais prendre ton aîné. Puis tu vas laisser aller mon fils. » Et c'est à ça qu'on assiste avec cette 10e plaie. Le premier-né des Égyptiens, Exode 12:12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. L'aîné de chaque famille, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je l'ai dit, j'ai 46 ans, c'est moi l'aîné. Si j'étais un Égyptien, à ce moment-là, je mourrais. Ça pose une question. Ça pose la question du poids du péché de Pharaon sur l'ensemble de son peuple. Ça pose la question du poids qu'a être en autorité, être chef d'un foyer, conduire un pays, conduire un groupe de personnes. Comment est-ce que j'élève mes enfants? Les Écritures nous disent que chaque homme, chaque femme va être condamné sur la base de ses péchés. Les Écritures sont super claires. Dieu est juste. Mais en même temps, les Écritures nous disent à combien de reprises que celui qui est placé en autorité, que ce soit un chef de foyer, que ce soit un parent, que ce soit un pasteur ou des pasteurs dans une église, que ce soit les gouvernements qui dirigent une province, un pays, que ce soit un chef d'entreprise, qui que ce soit, à partir du moment où tu es en autorité, tes décisions ont un impact sur l'ensemble des personnes qui sont placées sous ta responsabilité. Et tes péchés à toi vont avoir une incidence sur la vie des autres. La manière que tu élèves tes enfants, le fait que tu rappelles le souvenir de la grâce ou non à tes enfants, la manière que tu diriges ton entreprise dans l'illégalité ou dans l'honnêteté, comment est-ce que tu administres ça, la manière que tu diriges ton équipe de travail, tes entraînes dans la paresse, dans le laisser-aller, dans le mépris des supérieurs ou vraiment dans la poursuite de la mission de l'entreprise, ça a une incidence. Le péché de Pharaon a une incidence pour l'ensemble de l'Égypte. Celui qui se croyait un demi-dieu a une incidence sur l'ensemble de l'Égypte. Puis en même temps, on voit dans le passage, dans Exode 12, 38, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. C'est vraiment intéressant, il y a probablement des Égyptiens qui étaient dans ce lot-là et qui sont partis avec Israël. Dieu donne une provision tout de suite. Ceux qui ne sont pas juifs, qui vont être avec vous, qui vont vouloir célébrer la Pâque, vont devoir se convertir. Les hommes vont être circoncis, vont entrer dans le peuple de Dieu, puis ils vont pouvoir célébrer la Pâque. Donc, il y a une possibilité. Mais il y a une lourde responsabilité qui est là. Puis de manière... ça va peut-être vous paraître cruel, mais... D'une certaine manière, Dieu était gracieux avec l'Égypte parce qu'il ne les a pas anéantis au complet. La vérité, c'est que chaque être humain qui va se présenter devant Dieu, avec ses péchés, va être détruit. Si ce n'est pour la grâce. Et Dieu a laissé des Égyptiens continuer à vivre. Dieu était gracieux même là. L'agneau de Dieu, vous pourrez... Exode 12, 5. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et littéralement, c'est ça qu'ils ont dû faire à ce moment-là. Ils ont dû sacrifier un agneau, qui était un symbole, on va le voir, mais un agneau. Puis ils ont dû le garder pendant 4 jours pour s'assurer qu'il était en santé, puis vraiment voir qui va être cette victime-là. Et puis ils l'ont sacrifié, ils ont préparé la nourriture pour la manger, ils se sont assurés de rien gaspiller. S'il en restait, ça devait même être brûlé. Et le sang était placé sur les linteaux, sur les pas de la porte, sur le tour de la porte. Et tout ceci était un acte de foi. Imaginez que vous êtes un Israélien puis vous dites « Come on! » J'ai pas trouvé un agneau, mais il y avait un chien qui passait dans la rue. On s'est débrouillé avec ça. Ou bien « Come on! » On est le peuple de Dieu. Jusqu'à présent, Israël n'a jamais eu à rien faire pour se protéger des plaies, des 9 plaies. Mais Dieu n'était pas venu visiter l'Égypte. Lorsque Dieu vient, Israël va se mettre à l'abri par ce symbole-là. Et donc, Israël faisait un acte de foi. Par la foi, il disait, on va sacrifier cet agneau, et puis Dieu va nous épargner. C'est un acte de foi qu'il ne pouvait même pas comprendre, mais il devait agir sur cet acte de foi-là. De la même manière que si je décide de suivre Jésus-Christ, je vais passer à l'action, ma vie va être conséquente. Je vais décider de me faire baptiser, puis je vais témoigner publiquement de ma foi. Ce n'est pas quelque chose de privé, de caché. Ça devient public, c'était affiché. Ceux qui s'affichaient. Ce qu'Israël ne réalisait pas, c'est qu'il faisait un acte de foi plus grand encore, parce que ce sacrifice-là était simplement une métaphore, une image, précurseur d'un sacrifice parfait qui allait venir. Dieu allait donner son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et les prophètes en ont parlé. Dans Ésaïe 53, on lit, « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? » On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Ésaïe prophétisait sur la venue de Jésus, qui allait venir beaucoup plus tard. Et Pierre, que j'ai déjà cité ce matin, dit dans 1 Pierre 1, 19 et 20, « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. » Lorsque Dieu demande à Israël de sacrifier cet agneau-là, son plan est complètement fait. Christ est déjà prédestiné à être le véritable agneau qui va être sacrifié. Dieu sait déjà, alors même qu'il est en train de les épargner, que ça va être en vertu du sacrifice de son propre Fils, son bien-aimé, qui va faire grâce. Je ne suis pas assez grand pour comprendre tout ce qui se passe en Dieu, qui voit toutes ces choses-là de manière simultanée hors du temps. Je ne suis pas assez grand pour comprendre toutes ces choses-là. Mais voyez-vous, la grâce est nécessaire pour tous. Lorsqu'on lit ce passage-là, on peut être frappé par le jugement que Dieu fait tomber sur l'Égypte. Mais la grâce est nécessaire pour tous. La grâce était nécessaire pour Israël comme elle était nécessaire pour les Égyptiens. S'ils auraient dû être épargnés, ça aurait été par grâce. Ceux d'Israël qui ont été épargnés, c'est par grâce qu'ils ont été épargnés. Dans ce symbole-là du sang versé. Dieu est saint et il n'y a aucun être humain sur la terre qui est saint. Dieu est parfait, il n'y a aucun être humain sur la terre qui est parfait. Dieu est sans péché, il n'y a aucun être humain sur la terre qui est parfait. Si vous vous dites, ah, les chrétiens, eux autres, ils pensent qu'ils sont bons. Tu ne comprends pas, pour être chrétien, il faut premièrement que tu sois convaincu que tu es pourri. C'est la première qualification pour devenir chrétien. Tu ne regardes pas les autres, tu dis hey, « Moi, je vais être un religieux parce que je suis meilleur que les autres. » Non, tu es un religieux, tu n'es pas un chrétien. Tu n'as rien compris au christianisme. Le christianisme commence au moment où je dis, Seigneur, est-ce que je peux m'abriter derrière le sacrifice de l'agneau parfait? Parce que si je dois me présenter devant toi, il va falloir que je passe par cette porte-là. Jésus-Christ. Autrement, je suis mort. Parce que tu es parfait, puis je suis pécheur. Et on va le découvrir bientôt à travers Exode combien Israël est pécheur. Ce n'est pas seulement des innocents, ce sont des pécheurs. Et la grâce est nécessaire pour tous, et la grâce est offerte à tous. Dans Exode 12, 48, on lit, « Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis, alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. » La grâce est offerte à tous. La grâce est offerte à tous. Et nous avons connu la grâce de Jésus-Christ. Dans quelques minutes, tantôt, on va prendre le repas du Seigneur pour se rappeler du sacrifice de Jésus. Lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on veut se rappeler que Dieu est infiniment grand et dans sa perfection, il est terrible. Heureusement que Dieu n'est pas comme toi et moi. Il y en a pas mal plus à gérer que toi et moi, puis il doit le faire avec justice, avec droiture. Et je veux me rappeler de la grâce, que Dieu est merveilleux et qu'il est bon, que sa grâce, il l'offre à tous. Et si à l'époque, quelqu'un d'une autre nation pouvait se joindre au peuple d'Israël, aujourd'hui, Dieu nous envoie, nous, vers toutes les nations. On ne reste pas ici en disant, venez vers nous, vous pouvez vous joindre à nous. Ce n'est pas ça notre mandat. Notre mandat, c'est aller. Aller vers eux, leur annoncer que Dieu est saint. Que Dieu est terrible et qu'il est merveilleux et gracieux, qu'il a donné son bien-aimé, son Fils Jésus-Christ, pour que vous puissiez être graciés et que vous puissiez vous tenir debout dans la présence de Dieu le jour où vous aurez à vous présenter devant sa face. Et tout de suite après le sacrifice, les choses déboulent à toute vitesse. Parce que lorsque Dieu fait grâce, Dieu ne fait pas simplement que nous protéger de sa colère, de sa sainteté qui nous anéantirait si on n'était pas couvert par sa grâce. Quand Dieu fait grâce, on est propulsé littéralement dans une vie nouvelle, une vie d'abondance dans sa présence. T'es là puis t'es propulsé. C'est ça qui se passe avec Israël ici. Au moment où le sacrifice a lieu, Dieu leur avait annoncé, il a dit « Attendez un petit peu ». Si vous êtes incapable de sortir d'Égypte, une fois que ça va s'être produit, vous allez être incapable de rester en Égypte. Si vous êtes incapable de sortir actuellement parce que vous êtes esclave, ça va être impossible pour vous après de rester en Égypte. Les Égyptiens vont vous pousser dehors. Ils vont sortir tous leurs biens. Ils vont dire, regarde, prends ça, prends ça. Puis Dieu est en train de préparer la construction du tabernacle. C'est ça qu'il est en train de faire. Vous voulez des trésors, vous voulez des choses. Allez-y, partez. Pharaon va dire, bénissez-moi, que ça arrête tout ça. Parce que je sais qui est le Dieu que vous servez maintenant. Et ils sont littéralement expulsés dans une vie nouvelle. Et c'est ça qui se passe lorsqu'on est couvert par la grâce. Je passe de cet état où si Dieu venait me visiter dans mon péché, je serais anéanti. Mais une fois que je suis couvert par la grâce, que je passe par cette porte-là qui est Jésus-Christ, avec son sacrifice, j'entre dans une vie nouvelle. Une vie différente, et c'est l'image du pain sans levain. Je n'ai pas le temps de développer ça ce matin, mais c'est ce pain qui va être préservé, qui va être différent. Ils sont dans une course, ils doivent sortir d'Égypte, et tout leur cheminement au désert, ça va être ça, on va essayer de sortir maintenant l'Égypte d'Israël. Et donc, ils devaient manger rapidement, prendre un pain qu'ils n'avaient même pas le temps de lever, ils devaient partir. Et plus tard dans le Nouveau Testament, cette image du pain sans levain va être celle d'un peuple qui est consacré, et qui n'a pas le levain du péché dans sa vie. Et enfin, ce passage-là termine avec ce avec quoi j'ai commencé ce matin. Un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire parce que nous oublions facilement la grâce. Nous oublions le prix que Dieu a payé pour que nous connaissions la grâce, le pardon. Nous oublions le Dieu terrible qu'il est. On en vient à voir l'Évangile. En anglais, on appelle ça « cheap grace ». C'est la grâce qui pardonne tout le temps tout, puis j'ai pas à marcher dans la sainteté. J'ai pas à avoir une vie sans levain. Parce qu'on oublie. Parce qu'on oublie ça. Et on a un devoir de mémoire. J'ai le devoir de me rappeler ce que Christ est venu faire. Il y a 2000 ans, l'humanité a connu la grâce de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Puis le Seigneur nous a donné un mémorial pour nous rappeler de ça, le repas du Seigneur. Il a célébré avec ses disciples au jour de la Pâque. Puis il a dit, maintenant la Pâque va prendre un autre sens pour vous. Vous quittez le symbole de l'agneau pour avoir le véritable agneau. Dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et à la toute fin de la Bible, on lit ceci dans Apocalypse 22, les versets 1 à 5. C'est l'apôtre Jean qui, dans une vision, nous déclare ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, sans être terrifiés, sans être anéantis. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. On va chanter ensemble.